France Inter.
Bonsoir. Mobilisation générale pour le budget de la défense. À la veille du 14 juillet, Emmanuel Macron s'adresse ce soir à l'armée et à l'opinion pour expliquer les efforts demandés en faveur des dépenses militaires. À rebours du budget d'austérité que présentera le Premier ministre dans deux jours, nous serons au ministère des Armées dès le début de ce journal. Retour sur une évasion spectaculaire hier à Lyon-Corba. Un détenu s'est glissé dans le sac d'un autre. Le syndicat des directeurs de prison pointe la surpopulation carcérale. Dans l'actualité sportive, le retour de la finale Yannick Sinner, Carlos Alvaraz. C'était l'affiche de Roland-Garros, c'est celle de Wimbledon. Le match est en cours et c'est parti pour durer. Et puis les Bleus du foot face aux Pays-Bas, dernier match de poule pour les Françaises. Elles devraient se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro. La météo de demain avec Magali Rochereau, des passages nuageux et quelques averses à l'ouest.
Oui Corinne, et puis à l'est du pays, le temps orageux se maintient.
Et des prévisions complètes de Magali Rochereau à la fin de ce journal.
France Inter.
Trouver de l'argent pour assurer notre sécurité dans un monde toujours plus menaçant. C'est à grands traits l'objet du discours qu'Emmanuel Macron s'apprête à prononcer depuis le ministère des Armées. Une allocution traditionnelle à la veille du défilé du 14 juillet. Mais avec cette année des annonces majeures, promet l'Élysée, dont sans doute une augmentation conséquente du budget de la défense. Bonsoir Lise Roosevelt.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du ministère des Armées à l'hôtel de Brienne où le président de la République va prendre la parole.
Oui, le pupitre est en place sur le perron de l'hôtel de Brienne et les jardins sont remplis d'uniformes, képis, bérets et autres coiffes militaires. Des jeunes du service national universel sont également présents en rouge et blanc. L'ambiance est détendue sous le soleil et en musique, mais le ton du président promet d'être solennel. Vous l'avez dit, d'importantes annonces sont attendues. De nouvelles commandes, des choix stratégiques, plus de budget donc et plus d'investissement. Voilà ce qu'Emmanuel Macron doit annoncer, comment il compte les financer aussi. Depuis plusieurs jours, l'Élysée prépare l'opinion publique. À la demande du président de la République, le chef d'état-major a donné une conférence de presse, c'est rarissime. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a aussi pris la parole dans la tribune dimanche ce matin. Tous deux ont insisté sur la menace qui pèse sur la France, venant notamment de Russie. L'enjeu est bien de faire comprendre aux Français pourquoi il faut dépenser plus pour son armée, alors même que l'État appelle à se serrer la ceinture. Dans deux jours, François Bayrou doit présenter un grand plan pour trouver 40 milliards d'euros d'économies.
Merci Lise Roosevelt. Et pour l'opinion, ces efforts supplémentaires pour la défense sont-ils justifiés? Les Français comprennent-ils ce choix? Petit aperçu des réponses avec le reportage de Valentin Dunat devant le musée des armées, place des Invalides à Paris.
À vrai dire, ça dépend beaucoup du lien que chacun peut entretenir avec l'armée. Michael a 20 ans, il a été réserviste pendant près de 2 ans, son père était militaire.
Ouais, il est resté assez longtemps là-dedans, donc il en a beaucoup parlé.
Les efforts de défense que va devoir faire la France, il y est donc favorable.
Si on doit se préparer à une menace comme la Russie, c'est important du coup de rehausser le budget.
C'est aussi ce que pensent les nombreux soldats que j'ai pu rencontrer qui ont un devoir de réserve, qui n'ont pas pu s'exprimer. En revanche, pour Dorian, 23 ans, venu de Clermont-Ferrand...
Je trouve qu'il se fout complètement de notre gueule.
Le président de la République ?
Il se fout de nous, oui, complètement. Il y a le premier budget de l'État qui est pratiquement les aides aux entreprises et compagnie, qui ne veut pas y toucher, il ne veut pas faire d'audit, ni de contrôle, ni rien. Et par contre, il veut réduire les écoles qui sont déjà à la ramasse, les hôpitaux qui sont déjà à la ramasse, le service public qui est déjà à la ramasse. Donc l'augmentation de l'armée, je veux bien, mais par contre, en fait, qu'ils fassent les vraies coupures là où il faut. Quoi.
Car pour nombre de Français venus visiter l'hôtel des Invalides, la guerre, la menace est hypothétique, lointaine. Ce couple vient de La Rochelle.
Je pense qu'on se balade tous les jours dans Paris et que on ressent pas vraiment la guerre. Quoi.
On n'a jamais connu la guerre, nous, qu'on a la trentaine, c'est juste ça en fait. On réalise pas la chose.
Depuis 2017, le budget défense est déjà passé de 32 à 50 milliards et demi d'euros.
Reportage de Valentin Dunat. Et après la dépense, l'austérité, on le disait, le Premier ministre présentera mardi son plan de redressement des finances publiques. Objectif, trouver 40 milliards d'économies dès l'an prochain pour diminuer le poids de la dette. Un choix qui risque d'être douloureux. Or, d'après une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques, une autre trajectoire moins abrupte est possible. Xavier Timbaud est économiste et directeur de l'OFCE.
Une politique budgétaire trop brutale, ça va engendrer une réduction de l'activité qui peut amener la France dans une situation de récession. En tout cas, dans un mouvement conjoncturel aujourd'hui où le taux de chômage a plutôt tendance à augmenter, ça peut accentuer et rendre persistante cette hausse du chômage pendant plusieurs années. C'est derrière des conséquences sociales qu'il faut prendre en compte. Il existe une approche plus mesurée qui serait la stabilisation de la dette publique à un niveau qui est élevé mais qui est quand même plus bas que celui d'aujourd'hui. On est beaucoup dans la dramatisation. Bon, le gouvernement de François Bayrou n'est pas dans une position facile, donc il a probablement tendance à dramatiser la situation pour essayer d'imposer une solution. Le risque étant que ça conduise à sa chute. Et donc, je pense qu'il faut arriver à avoir un débat responsable, faire ce qui est nécessaire de faire, mais ne pas en faire non plus trop, et surtout ne pas donner le sentiment qu'on même pas discuter. Ça, en particulier dans l'état politique du pays, c'est quelque chose qui probablement ne passera pas.
Les propos recueillis par Claire Chaudière. Un autre défi pour le gouvernement, sécuritaire cette fois. Ce soir, le PSG affronte Chelsea en Coupe du Monde des clubs, à New York à partir de 21h. Un match la veille, donc du défilé militaire sur les Champs-Élysées. Les tribunes sont déjà installées, alors pour empêcher tout débordement, comme le soir de la victoire du PSG en Ligue des Champions, les grands rassemblements sont interdits et 11 500 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés dans la capitale et aux alentours. Comment un homme a-t-il pu s'évader en se cachant dans le sac d'un co-détenu au moment de sa libération? C'est la question qui se pose après l'évasion d'un détenu de 20 ans de la prison de Corbas, près de Lyon. Depuis hier, l'homme reste introuvable. Il fait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Ce type d'évasion est une première en France, dans un établissement confronté à la surpopulation carcérale, explique Jean-François Fogliarino du Syndicat national des directeurs pénitentiaires.
Pour nous tous, c'est un constat d'échec. Dans l'établissement, il y a 1200 détenus pour 690 places et il y a surtout un surveillant par étage pour 100 détenus, un officier pour 300 détenus et le fait que, très clairement, le travail s'accumule pour ces personnels qui sont en poste. Vous avez une situation où la cellule est déjà surpeuplée, il y avait 3 détenus. Il y a un tel turnover qu'un détenu sortant est quasi automatiquement remplacé par un entrant et que parfois, lors des appels, vous imaginez toutes ces cellules à contrôler, ça peut être fait rapidement et certaines consignes ne sont pas peut-être passées en fait.
Jean-François Fogliarino interrogé sur France Info. Attention aux incendies. 3 départements du centre-ouest sont maintenus demain en vigilance orange pour risque élevé de feux de forêt, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres et la Vienne. Et puis la préfecture maritime de l'Atlantique alerte sur le risque très élevé de baïnes, ces courants marins très dangereux dans les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Gironde et de la Charente-Maritime. Bruxelles espère toujours un accord avec les États-Unis pour éviter la taxe de 30% annoncée hier par Donald Trump sur tous les produits importés depuis l'Union européenne, et ce à partir du 1er août. La Commission européenne prépare cependant des contre-mesures, indique sa présidente Ursula von der Leyen, pour être prêt le cas échéant. Dans le sud-est de l'Espagne, les autorités de la région de Murcie appellent au calme. Des émeutiers ont semé le chaos 2 nuits de suite dans la ville de Torre Pacheco en s'en prenant à des personnes immigrées. Les affrontements ont fait plusieurs blessés. Au point de départ, l'agression dans la rue d'un retraité, une agression instrumentalisée par des militants d'extrême droite. Correspondance de Marie-Hélène Ballestero.
Tout a démarré mercredi dernier. Domingo, retraité de 68 ans, se promène comme chaque jour à l'aube lorsqu'il se fait violemment agresser sans motif, selon lui, par 3 jeunes maghrébins. Depuis, la tension n'a fait qu'augmenter dans cette petite ville de la province de Murcie, notamment suite aux appels à la haine qui ont circulé sur les réseaux ces derniers jours. Résultat, pour la 2e nuit consécutive, Torre Pacheco a vécu des émeutes contre des immigrés. Une flambée de violence condamnée aujourd'hui par le président régional, le conservateur Fernando López Miras.
Les responsables de ces agressions seront traduits en justice, mais il faut faire confiance aux forces de sécurité de l'État ainsi qu'à la loi. Nous devons compter sur eux pour garantir l'ordre. Je veux lancer un appel au calme. Les habitants de Torre Pacheco veulent vivre en paix et ils veulent vivre ensemble, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Et les appels à la violence auxquels nous assistons de part et d'autre ne peuvent être autorisés ni tolérés.
y de otros.
Torre Pacheco espère retrouver la normalité. C'est le souhait des autorités. Le maire de la ville, Pedro Ángel Roca, du Parti populaire également, a souligné que la plupart des habitants de Torre Pacheco souhaitent vivre en paix et que la violence ne se combat pas par la violence.
Marie-Hélène Ballestero à Madrid.
France Inter, Corinne Audouin.
Dans le Tour de France, l'étape du jour est belge. Tim Berlier l'a emporté au sprint à Châteauroux. Deuxième victoire d'étape pour le coureur. Après son succès à Dunkerque il y a 6 jours, Tadej Pogacar reste en jaune. Et demain, c'est la première étape de montagne dans le Massif central avec un festival de col. Le numéro 1 mondial du tennis contre le numéro 2, Yannick Sinner et Carlos Alcaraz sont en finale du tournoi de Wimbledon. Il va falloir s'y habituer. C'est de la risque de dominer le tennis mondial pour un petit bout de temps. Et cette finale, c'est d'ailleurs la même que celle de Roland-Garros il y a un mois, remportée après 5h30 de jeu par Carlos Alcaraz. Alors à Wimbledon, les deux hommes jouent depuis seulement 2 heures. Bonsoir Fabrice Abgral.
Bonsoir.
Et ça semble bien parti pour durer aussi.
Ça risque de se prolonger en effet sur le court central baigné de soleil, en effet, entre ces deux joueurs. Un set partout entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. Le premier set remporté par Carlos Alcaraz, 6-4, alors qu'il était mené 4-2 dans cette première manche. Mais il a bien réagi, hein, il a aligné tout de suite 4 jeux d'affilée pour remporter donc ce premier set. Et en revanche, beau sursaut d'orgueil de Yannick Sinner. Il a senti le danger, donc il a élevé son niveau de jeu pour remporter le deuxième set sur ce même score de 6-4 et 2-1 en faveur de Carlos Alcaraz dans le troisième set. Sinner est au service pour égaliser à 2 jeux partout. 2 joueurs qui évidemment visent un nouveau titre du Grand Chelem. Ce serait un 4e titre du Grand Chelem pour Yannick Sinner, le tout premier à Wimbledon. C'est même sa toute première finale à Yannick Sinner à Wimbledon. La 3e finale en revanche pour Carlos Alcaraz, et lui il vise un 3e titre consécutif à Wimbledon, un 6e en Grand Chelem pour autant de finales disputées. Autant vous dire que l'Espagnol, c'est ça que c'est aussi très impressionnant, c'est qu'il n'a jamais perdu une finale en Grand Chelem. En tout cas, l'Espagnol va tenter de réussir de surcroît un 2e doublé Roland-Garros Wimbledon, ce que seuls 3 joueurs ont réussi, Rod Laver, Björn Borg et Rafael Nadal, que des monstres sacrés.
Merci Fabrice Abgral. Donc je rappelle, un 7 partout pour l'instant, et rendez-vous peut-être pour la fin du match dans 1 heure, dans 2 ou dans 3. Ce soir, si vous aimez le football, vous avez le choix entre le PSG qui rencontre Chelsea en finale d'une toute nouvelle compétition, le Mondial des clubs, et l'Euro de football en Suisse. Les Françaises affrontent les Pays-Bas en tête de leur groupe. Elles espèrent se qualifier pour les quarts de finale. Julien Froment.
Un point, voilà ce qu'il manque aux Bleus pour aller en quart de finale pour la 5e fois d'affilée dans la compétition. Les Pays-Bas, de leur côté, doivent l'emporter par 3 buts d'écart pour se qualifier. Une mission quasi impossible, au point que le sélectionneur néerlandais, Andries Jonker, n'hésite pas à invoquer le pire moment de l'histoire du foot français, la remontada.
J'imagine que le PSG n'avait jamais perdu 6-1 contre Barcelone, et un jour ça arrive. Je m'en fiche des statistiques. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire. On veut battre la France, et parfois les miracles arrivent.
Pour son homologue français, Laurent Bonadei, c'est de bonne guerre.
C'est normal, il est dans son rôle. Hein, c'est peut-être pas 3-0 qu'il faudra gagner, mais peut-être 5-2 ou 6-3. Parce qu'on a aussi, nous, la capacité à marquer des buts. On l'a prouvé depuis quelques semaines et quelques mois. Moi, sur ce match-là, honnêtement, je préférais être à notre place qu'à la leur.
Du côté des joueuses, pas question de penser au scénario du pire, la défenseuse Elisa de Almeida.
On ne calcule pas forcément le scénario qui peut se passer, parce que je pense que plus on calcule, plus il peut nous arriver des malheurs. On va juste jouer pour gagner et on va gagner.
Et les Bleus ont bien raison d'être confiantes, puisqu'elles n'ont jamais perdu dans leur histoire par 3 buts d'écart en 8 confrontations face aux Pays-Bas.
Et France-Pays-Bas, c'est à 21h sur France 2. Allez, pour terminer ce journal, je vous emmène au Pérou, à la découverte d'une citadelle vieille de 3800 ans, vestige de la civilisation Caral. La ville était un point de rencontre entre les premières communautés de la côte pacifique et celles venues des Andes et d'Amazonie. Le site a ouvert au public ce week-end. C'est un reportage de Martin Chabal.
Les ruines de Pénico ont ouvert leurs portes aux touristes après 8 ans de fouilles archéologiques. Sergio voulait être parmi les premiers visiteurs.
On devrait tous être fiers de cette ville. Pierre revient ou non, parce que ça fait partie de l'histoire du monde.
En effet, Pénico, c'est une ville héritière de la plus ancienne civilisation du continent, la civilisation Caral. Et pour les archéologues, Pénico est l'un des chaînons manquants pour comprendre cette civilisation. Ruth Chadi est l'archéologue qui a déterré la ville de Pénico.
Ce qui est très intéressant avec Pénico, c'est qu'elle a prospéré après une période de changement climatique.
Pour elle, la découverte de cette ville est une preuve que la société a su s'adapter à une période de sécheresse extrême il y a plus de 3000 ans. le tout en laissant la guerre au profit des échanges culturels et économiques.
Nous n'avons pas trouvé d'armes sur le site que nous fouillons, pas d'armes et pas non plus de murailles.
L'ouverture de la cité au public n'est qu'une étape pour Rutschadi. Cet archéologue renommé et expérimenté compte bien faire encore des découvertes sur le terrain pour comprendre encore mieux la plus ancienne des civilisations du continent américain.
Voilà, c'est un reportage de Martin Chabal. Un œil sur le temps.